franceinter.fr.
Bonjour Samuel Forêt.
Bonjour.
Journaliste, grand reporter au Figaro. Vous venez de recevoir le 79e prix Albert Londres, catégorie presse écrite pour, c'est l'un des prix les plus prestigieux du journaliste, pour votre récit de la bataille de Mossoul en Irak. Cérémonie particulière cette année de remise des prix. Elle a eu lieu mardi. Elle a été dédiée à vos trois confrères morts le 19 juin dernier dans l'explosion d'une mine. Vous étiez à leur côté, Véronique Robert et Stéphane Villeneuve, qui travaillaient pour Envoyé Spécial, ainsi que votre fixeur kurde, le journaliste Bakhtiyar Haddad. On y reviendra, si vous voulez bien, dans quelques minutes. D'abord, cette ville de Mossoul que vous connaissez bien, depuis combien de temps vous y allez ?
Depuis précisément début novembre 2016, donc ça fait bientôt 6 mois.
Quasiment depuis le début de la reconquête anti-Daesh, à quoi ressemble-t-elle aujourd'hui ?
Mossoul, il y a deux parties de Mossoul en fait. La rive gauche qui est à l'est du Tigre est relativement est déjà revenue à la vie en fait, avec une admirable capacité de résilience donc des Mossouliotes qui sont tout de suite mis après la bataille à réparer, à rouvrir les commerces, à se remettre à vivre après 2 voire 3 ans d'occupation par l'État islamique. Mossoul ouest est beaucoup plus détruite, c'est le fief des djihadistes et c'est l'endroit où les djihadistes ont le plus résisté. Donc c'est là où les combats ont été le plus intenses et ils continuent toujours aujourd'hui.
On parle d'une ville immense, qui avant la guerre comptait près de 3 millions d'habitants. C'est Paris, quasiment. On dit aussi que c'est la plus grande bataille urbaine depuis la bataille de Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale.
C'est très très grand Mossoul, c'est très étonnant. C'est une ville qui a énormément de quartiers, qui a des grands espaces vides à l'intérieur. Il y a une forêt le long du fleuve Tigre. Ça a été une bataille très difficile que les forces irakiennes ont menée donc pas à pas et maison par maison, où ils ont essayé de faire un maximum, vraiment, enfin, de toute façon, ça, j'ai fait la bataille à leur côté, pour épargner la vie des civils.
Comment vit-on aujourd'hui dans cette ville ? Comment vit la population ?
La population essaie de revivre le mieux possible. C'est très difficile. C'est très difficile parce que les accès sont encore toujours très coupés et très difficiles à cause de la situation politique irakienne principalement. C'est tout le problème de ce qui se passera après la reprise de Mossoul par les forces irakiennes. Ce problème de politique où il y a énormément de tensions entre les différentes communautés, au sein même des communautés, entre les différentes composantes de ce pays qui est très très fragmenté. Voilà, mais malgré tout, pour l'instant, on en est encore à revivre et se reprendre à espérer.
Elle parle librement, cette population libérée. Elle vous accueille comment quand vous allez à sa rencontre ?
Plutôt bien. C'est plutôt agréable en fait de travailler en Irak. C'est un pays très ouvert finalement, et il y avait un vrai sentiment de libération de la part de beaucoup, qui était ressenti de la part de beaucoup de Mossouliotes.
Ça, c'est pour la partie libérée de la ville. Il y a aussi une partie aujourd'hui où se poursuivent les combats. C'est un périmètre grand comme quoi, à peu près, aujourd'hui, la bataille de Mossoul ?
C'est extrêmement restreint. Je pense qu'on n'est même pas à la surface d'un arrondissement parisien. Et c'est aussi un endroit extrêmement complexe à lire. Il y a des dénivelés, il y a des rues qui sont très tortueuses. C'est un entrelac de ruelles absolument dantesque. D'autant plus qu'aujourd'hui tout est complètement détruit. Donc c'est ça. C'est les forces irakiennes mènent une bataille dans un environnement complexe que les djihadistes maîtrisent parfaitement et dans lequel ils mènent une résistance acharnée.
Avec à l'intérieur de ces dernières poches de résistance des civils, des milliers, peut-être des dizaines de milliers, 20 000, disent les experts de l'ONU. Est-ce qu'on sait comment vivent aujourd'hui ces civils ?
Je pense qu'ils sont tapis, dans leur maison, dans leur cave. Ils se cachent, ils essayent d'échapper à tout le monde, c'est-à-dire d'échapper aux frappes aériennes, d'échapper aux djihadistes, d'échapper aux forces irakiennes. Enfin, les civils sont vraiment vivent un traumatisme incroyable dans cette guerre. Ça a été très très dur pour eux. Et c'est pour ça que les forces irakiennes essayent d'avancer pas à pas pour faire sortir donc ces civils petit à petit. C'est extrêmement difficile. Vous imaginez une bataille, on a jamais vu ça en fait sur un tel périmètre depuis effectivement des années.
Comment vous travaillez sur place, Samuel Forêt ? Dans quelles conditions vous êtes en compagnie de l'armée irakienne. Derrière elle, vous êtes au plus près de la ligne de front. Comment se passent vos journées de travail sur place?
Les journées de travail, c'est un long... Déjà, c'est un long travail d'identification, savoir avec qui on va, dans quelle zone. Là, ce sont les forces spéciales irakiennes qui mènent la bataille. Il y a quelques mois, c'était plutôt les forces spéciales de la police irakienne. Donc, il faut identifier qui combat, savoir qui contacter. Une fois sur place, l'accès aux forces irakiennes est relativement facile. Il faut parfois forcer un peu la porte, mais on a un accès assez incroyable en fait au combat. Et pour documenter cette ville en train d'être prise actuellement.
Vous êtes embarqué avec eux, concrètement, dans les convois, dans les blindés ?
C'est, tout à fait, on est avec eux. Même à pied d'ailleurs, il y a des moments où les forces irakiennes progressent dans la ville et nous proposent de les accompagner. Et il faut juste trouver le bon timing entre ne pas se jeter tête baissée dans le piège et au cœur de la bataille, mais arriver à sentir un peu ce qu'est et s'approcher au cœur de chaudron brûlant qu'est la bataille de Mossoul.
Vous comparez votre travail à celui d'un vulcanologue qui s'approche au plus près de la lave. Comment savoir quand on est trop près? Quels sont les signaux, les signes avant-coureurs qui vous disent attention là, demi-tour?
Je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut déjà. Faut savoir quel est l'objectif de la journée, savoir si on suit les combats, savoir si on veut voir l'état d'une ville, savoir si on veut s'adresser aux civils. D'une part, d'autre part, quand on est trop près, de toute façon, en général, c'est presque qu'il est trop tard, dirais-je. Mais en général, il faut se fier à son instinct, je pense.
Ces signaux, l'instinct, est-ce qu'ils ont joué le 19 juin dernier au moment de l'explosion dans laquelle vous avez perdu trois de vos confrères? Je le rappelais tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des signes prémonitoires? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit c'est trop risqué, on fait demi-tour?
En fait, on était dans une... Là, pour le coup, c'était une journée très très simple. A priori, on était en train d'accompagner les forces irakiennes qui reprenaient une partie de la vieille ville de Mossoul. Donc, c'était vraiment l'entrée dans la vieille ville de Mossoul et c'était un nouveau territoire. C'était une nouvelle bataille qui commençait ce jour-là. Les soldats irakiens avaient libéré une sorte de bulle, une sorte de zone au-devant eux. Et après 4 heures de combat, cette zone était à peu près sécurisée. C'est à ce moment-là qu'ils nous proposent de les accompagner pour voir à quoi ressemble cette vieille ville. On voit à quoi ressemble cette vieille ville. On s'approche de la limite, on s'approche en fait de la ligne de front, on s'approche de l'endroit où la confrontation entre les djihadistes et les forces irakiennes est plus nette. C'était pas l'objectif de la journée, donc on décide de rentrer, tout simplement. Voilà.
Et de vous mettre à l'abri.
Et de nous mettre à l'abri, oui. C'est un fait de guerre. Hein. C'est la complexité de Mossoul aujourd'hui, et surtout de la vieille ville, c'est que pendant très longtemps, les djihadistes attaquaient à coups de voitures suicides, à coups de snipers, etc. Aujourd'hui, ils sont retranchés dans leur défense, et tout l'explosif qu'ils n'ont pas mis dans la voiture suicide, ils l'ont mis dans des pièges explosifs qui truffent la vieille ville. Chaque pas peut être un piège potentiel.
Vous avez choisi de raconter dans les colonnes de votre journal Le Figaro les heures, les minutes qui ont précédé le drame qui a conduit à la mort de vos trois confrères. Pourquoi écrire là-dessus ?
Ça me paraît important d'écrire, de raconter ce qui s'était passé. C'était pas un article facile à écrire, évidemment. Simplement pour poser les choses et arriver à reconstituer ce qui était cette journée, qui était une journée relativement normale finalement, même si on entrait dans la vieille ville, même si on a campagné des forces irakiennes, même si on s'est fait bombarder et tirer dessus, mais qui pour moi a formé une sorte de quotidien finalement de ces 8 derniers mois. Et je tenais à parler aussi de mes camarades qui sont tombés devant moi.
Et notamment de votre fixeur, le journaliste kurde Bakhtiyar Haddad, dont vous étiez très proche. On peut peut-être expliquer le travail d'un fixeur en Irak. C'est celui qui vous ouvre la voie avant les reportages, qui vous permet de faire votre travail là-bas.
Voilà, moi je suis arrivé, Bakhtiyar Haddad, j'ai fait sa connaissance il y a 3 ans. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler en Irak. C'est avec lui que j'ai commencé à découvrir, à l'époque on s'était approché aux limites de Mossoul, qui venait d'être prise par l'État islamique. C'est lui qui trouvait les contacts, c'est lui qui me faisait comprendre quel était à quoi ressemblait le terrain, qu'est-ce qui pouvait être potentiellement intéressant et qui ouvrait la voie, oui, tout à fait.
Voilà. Et sans qui le travail là-bas est évidemment complètement impossible.
Non, c'est très difficile. Surtout quand, bon, j'ai commencé, ça fait longtemps que je couvre l'Irak, donc au bout d'un certain temps, on finit par comprendre les règles et savoir travailler un peu tout seul. Mais au début, c'est absolument indispensable. Oui.
Samuel Forêt, prix Albert Londres 2017. Vous restez avec nous jusqu'à 9h si vous voulez bien. On va se retrouver dans quelques instants, juste après la revue de presse. On accueillera également l'ancien directeur de l'agence CAPA, Pascal Manoukian, qui nous rejoint dans ce studio. Il est 8h32.